Bonsoir, la bataille de Tripoli a commencé. On se bat dans les quartiers de la capitale libyenne. Les rebelles annoncent que l'heure de la défaite va sonner pour le colonel Kadhafi. On va tenter de savoir ce qui se passe vraiment sur le terrain et ce qui attend la Libye dans les heures décisives qui vont suivre. Avec nous, Abdelaziz Barroui, en direct de Tunis, d'où il suit de très près la situation en Libye voisine. Antoine Basbous, directeur de l'Observatoire des pays arabes, et une jeune libyenne et suisse en direct de Genève. Elle a gardé de la famille en Libye, Zaina Moussa. Tous les trois, ils sont en direct avec nous pour commenter les dernières nouvelles qui tombent à l'instant en provenance de Tripoli. Le PDC est-il encore un parti de droite? En tous les cas, lorsqu'il dit droite, le président du parti, Christophe Darbelay, pense désormais à d'autres partis que le sien. Il l'a prouvé hier au Congrès en fustigeant les erreurs de la gauche et celles du bloc de droite, dit-il. C'est une façon pour le PDC de se distinguer, nous dira Christelle Demangeau. Mais voilà quelques mois déjà que le PDC s'éloigne progressivement de la droite bourgeoise sur pas mal de sujets. Est-ce bien raisonnable? Nous poserons la question à Christophe Darbelay et puis il pourra mesurer son pouvoir de conviction face à un défenseur convaincu du libéralisme, lui, le vaudois Fatih Derder. On recevra le maire de Bienne, Éric Fer, pour lui demander ce qui se passe dans sa ville où une vingtaine de voitures ont brûlé hier soir. Nous aurons aussi le président du syndicat paysan unitaire, Pierre-André Tombé. La Migros et la COP annoncent de grosses baisses du chiffre d'affaires en raison du Francfort. Les paysans en particulier sont en première ligne face au tourisme d'achat, mais ils se méfient plus que jamais des distributeurs. Pierre-André Tombé est avec nous et ce sera vers 18h30. Le football roman vit un bel été avec le retour des bons vieux derbys d'autrefois. Aujourd'hui, c'est un très attendu Lausanne-Sion qui se terminera juste à la fin de ce forum. Juste à temps pour le journal des sports de Romain Rozan tout à l'heure qui fera le tour des résultats du week-end. Après le prix unique, voilà le lieu unique du livre. C'est l'idée du patron des éditions Stock en France. Il a créé un tollé en critiquant la vente de livres sur Internet qui va tuer le livre, dit-il, et de plaider pour la vente en librairie uniquement. Alors après quelques jours de polémique, il revient sur ses propos ce soir et sera en direct avec nous Jean-Marc Roberts, le directeur des éditions Stock. Il va débattre avec un partisan convaincu d'Internet, un jeune homme qui ne verse pas de larmes sur la disparition des petites librairies de quartier. Il est le meneur de la lutte contre le prix unique du livre, Philippe Nantermo, en débat avec Jean-Marc Roberts. Ce sera à 18h35 environ. Météo Suisse a émis un avis de canicule jusqu'en milieu de semaine prochaine. Il a fait plus de 35 degrés à Sion aujourd'hui. Il pourra faire jusqu'à 34 degrés demain en pleine. Mardi et mercredi s'annoncent tropicaux et tout cela se terminera comme il se doit en orage. Ils éclateront en pleine mercredi après-midi. La météo de Carole Dubuis, ce sera la fin de ce forum.
Forum, Philippe Reva, Laurent Caspary.
Et on commence ce forum par du football avec le derby roman entre Lausanne et Sion au stade de la Pontaise. Le match a débuté à 17h15, ça veut dire qu'on devrait avoir atteint la mi-temps maintenant, Hervé Borsier.
On joue le temps additionnel de la première mi-temps et toujours pas d'ouverture à la marque ici. 0-0 avec un avantage au point pour les Lausannois qui ont eu trois occasions très nettes mais sans mettre la balle au fond des filets contre une pour le FC Sion. Mais il y a eu un coup dur tout d'abord dans cette partie pour les Lausannois puisqu'il y a eu un choc terrible sur une sortie entre Fabio Coltorti, Guillaume Katz et un joueur de Sion. Et Coltorti et Katz sont sortis sur une civière avec un bandage et le cuir chevelu sans doute ouvert, voire une commotion. Ils ont été remplacés par Anthony Favre, le gardien remplaçant, et Alexandre Pache. Mais pas de gros problèmes. En tous les cas, ça ne s'est pas senti pour l'instant dans l'arrière-garde de l'équipe lausannoise. On notera encore que Obradovic a aussi été touché dans un duel. Il a été absent pendant 3 minutes, touché à la tempe, mais il a pu reprendre cette partie, évidemment, qui se joue sous la canicule. Ici, 34 degrés, c'est très difficile pour les joueurs. Et pour l'instant, donc 0-0 au stade de la Pontaise entre le Lausanne Sport et puis le FC Sion. Et pour l'instant, eh bien, cette première mi-temps n'est toujours pas terminée.
Merci beaucoup Hervé Borsier. On vous retrouve de toute façon tout à l'heure dans le journal des sports à la fin de ce forum. L'assaut de Tripoli a débuté en Libye. Ce soir, les troupes rebelles se trouvent aux portes du bastion du colonel Kadhafi. Un des chefs militaires des insurgés a même affirmé que la capitale tombera d'ici demain, Jérôme Jeannin.
Ouais, ça c'est peut-être allé un peu vite, mais on assiste, toujours est-il, depuis hier soir aux prémices d'une vaste offensive déjà baptisée Opération Sirène, qui vise à isoler le colonel Kadhafi pour le faire capituler. Après une accalmie ce matin, les tirs et les combats ont repris à Tripoli. Tripoli qui a été infiltré par 200 rebelles arrivés de la mer, qui se sont joints aux insurgés sur place. Selon la chaîne de télévision Al Jazeera, des avions de l'OTAN ont également bombardé le complexe fortifié de Kadhafi dans le centre de Tripoli. Et pendant ce temps, les troupes troupes rebelles poursuivent leur avancée sur le terrain. Depuis ce matin, elles se sont emparées d'une forêt stratégique et d'une caserne aux portes de Tripoli. Les choses vont vite puisqu'on vient d'apprendre que les rebelles auraient pris le contrôle du quartier de Tajoura dans la banlieue est de Tripoli. Par la voix de son porte-parole, le Conseil national de transition a averti que cette opération durera jusqu'à ce que Kadhafi soit assiégé. Il a fait savoir que si le colonel émettait le vœu de quitter le pays, il accepterait cette proposition. Info ou Intox, le porte-parole du régime, lui, a affirmé que des milliers de soldats et de volontaires étaient prêts à défendre leur capitale. Et pendant ce temps, un navire venu évacuer des ressortissants étrangers vers Malte essuie les tirs. Il a dû faire demi-tour. Et la Tunisie a reconnu officiellement le Conseil national de transition.
Jérôme Jeannin, merci.
On va tenter de comprendre ce qui se passe actuellement dans les heures très très cruciales qui se déroulent en ce moment à Tripoli avec trois invités. Antoine Bazbouz, directeur de l'Observatoire des pays arabes. Abdelaziz Barroui, en direct de Tunis, rédacteur en chef délégué de Jeune Afrique à Tunis, très bon connaisseur de la Libye. Et puis Zaina Moussa, qui est en direct de notre studio de Genève, suisse et libyenne, étudiante à Genève, 25 ans. Zaina Moussa, bonsoir à vous tous.
Bonsoir.
Zaina Moussa, j'imagine, de l'émotion dans les heures qui se déroulent en ce moment. On se dit, ça y est, c'est le moment décisif.
Oui, évidemment, c'est une grande émotion, surtout dans les parties libérées de la Libye. On a vu les images depuis deux jours, des images de joie et d'émotion. Donc, ces heures à venir sont vraiment des heures décisives pour la Libye, je pense.
Vous avez eu des contacts sur place avec des gens de votre connaissance?
Donc sur place, sur Tripoli, j'ai quelques familles, mais avec laquelle j'ai pas pu avoir de contact ces jours malheureusement. Mais évidemment, on suit l'actualité de très près et oui. Voilà.
Tout le monde, j'imagine, suit ça de très près effectivement. Abdelaziz Barroui, qu'est-ce qui est en train de se passer à Tripoli? Est-ce que c'est vraiment la fameuse bataille de Tripoli décisive dont on parle depuis plusieurs jours?
Tout à fait, ça y est, c'est pratiquement tout le monde est convaincu en Libye, les gens qu'on a entendus, les gens qu'on a contactés, c'est que le jeu, c'est fait, c'est pratiquement joué, mais le problème c'est encore un petit coup de pouce et puis ça y est. Mais pratiquement les gens, c'est tellement vrai que maintenant les rebelles en Libye fonctionnent d'une façon telle qu'ils se préparent à prendre le pouvoir et surtout que leurs médias ne font plus maintenant dans la célébration, mais plutôt dans les instructions à la population pour qu'elle sache comment traiter les prisonniers. Par exemple, des recommandations très claires, très nettes ont été données hier soir par Abdeljalil, le président du Conseil national de transition, mais aussi toutes les chaînes de radio et de télévision ne font que recommander à la population de ne pas violenter les membres des brigades de Kadhafi qui se rendent.
Mais Abdelaziz Barroui, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ce point où on a l'impression que tout s'accélère? Est-ce qu'il y a une stratégie délibérée là derrière?
Il y a exactement, tout à fait. S'il y a une stratégie, c'est clair, c'est net, il y a une stratégie délibérée. Tout à l'heure, vous parliez de Tajoura, ce qui est un très bon exemple. Précisément, à Tajoura, les gens se sont organisés maintenant. Les rebelles ont créé un comité local pour diriger. Tajoura est un grand quartier, c'est une ville dans la ville, Tajoura. C'est un grand quartier populaire, une ville dans la ville, et ils ont créé un comité populaire, en quelque sorte, mais qui rappelle un mauvais souvenir, parce que c'est la même appellation sous Kadhafi, mais aussi un comité militaire. Et parce que ils veulent que les choses se passent dans les règles, on a même lancé un appel aux agents de police qui fonctionnaient sous Kadhafi de retourner pour qu'ils fassent leur devoir, leur travail pour maintenir l'ordre. C'est précisément, alors il n'y a pas seulement cela, il y a aussi les unités. Alors ce qui se passe dans ce plan, c'est qu'il fallait que les Tripolitains, les habitants de Tripoli, eux-mêmes prennent le pouvoir d'abord. Et alors c'est seulement après, c'est-à-dire à partir de ce soir, qu'il y a des unités qui viennent, qui marchent sur Tripoli de l'ouest, de l'est et du sud. Et que ces unités sont en train de marcher actuellement vers Tripoli. Déjà, une unité a atteint l'aéroport principal de Tripoli, l'aéroport de Mitiga, et elle est en train d'avancer pour probablement arriver ce soir à Tripoli.
Antoine Basbous, qu'est-ce qui va se passer après, si tant est que la chute de Kadhafi soit si proche? Ce mouvement, cet ensemble parfois disparate d'autorités en Libye peut assumer une sorte de transition plus ou moins stable?
Vous allez un peu trop vite en besogne. Je suis sûr que la dynamique est celle-là, que Kadhafi va tomber, qu'il ne fêtera pas le 42e anniversaire de son coup d'État le 1er septembre. Mais d'ici là, il se passera sans doute beaucoup de choses, même si aujourd'hui, deux grands quartiers de Tripoli, Tajoura et Souk el-Jemaa, ont été contrôlés définitivement par la rébellion, et que la rébellion avance, progresse, et que l'aéroport est bombardé par l'OTAN, ainsi qu'un débarquement au port par des combattants venus de Misrata par mer. Bref, il y a une dynamique vertueuse qui va déboucher sur la fin de Kadhafi. Mais il n'est pas encore définitivement tombé. On ne sait pas s'il se cache quelque part à Tripoli, auquel cas il pourra difficilement s'extraire à Tripoli, sauf s'il se trouve d'ores et déjà en dehors de la capitale et en fuite.
Zaina Moussa, vous êtes libyenne et suisse, j'imagine, ça vous touche beaucoup ce qui se passe maintenant, mais on peut imaginer aussi les réactions des gens dans la rue, du lynchage, de la violence, on peut avoir peur pour les civils aussi qui sont à Tripoli. Vous voyez comment la situation de ce point de vue-là?
Bah écoutez, évidemment, on craint le carnage et on craint pour les civils, mais en même temps, malheureusement, on doit passer par là pour se libérer. C'est un mélange en fait de crainte et de joie parce que pour la première fois depuis de longs mois, on voit la fin approcher. Et donc là, il y a vraiment derrière en fait cet assaut de Tripoli, il y a vraiment une tactique militaire qui est très bien étudiée. Comme le disait le monsieur, tout d'abord, la stratégie en fait, c'est que Tripoli se soulève de l'intérieur et ensuite un renfort des rebelles en fait va se joindre à eux de l'extérieur et c'est ce qui est en train de se passer. Donc oui, c'est un mélange d'émotions, de crainte et de joie en même temps.
Abdelaziz Barroui, personne n'est dans la tête du colonel Kadhafi, mais à la fois il a plusieurs fois affirmé dans ses discours fleuves qu'il mourrait sur le sol libyen. En même temps, il y a des rumeurs multiples qui parlent de négociations. On a même dit aujourd'hui que s'il pouvait encore partir, s'il partait, on accepterait qu'il parte. Quelles sont les probabilités pour qu'il s'en aille, pour qu'il fuit la Libye?
Écoutez, justement, précisément, c'est tout le problème, c'est Kadhafi. Alors, il y a deux ou trois points qu'il faut garder en tête pour suivre la suite des événements. Précisément, on ne sait pas comment ça va se passer. Comment ça va se passer avec Kadhafi? On sait comment ça va se passer pour le reste, pratiquement, on s'y prépare, mais on ne sait pas comment ça va se passer pour Kadhafi. Kadhafi, il continue à considérer qu'il faut qu'il reste au pouvoir. Et surtout, il a lancé hier soir une menace d'un bain de sang à la population. Il a dit ceci, il vaut mieux que les gens meurent en masse d'un seul coup plutôt que de mourir en petite quantité. Voilà, c'est tout un programme pour Kadhafi et c'est précisément les craintes qu'il lance des attaques et qu'il utilise des armes qu'il n'a pas utilisées jusque-là sont importantes. Cela dit, et Kadhafi nous a habitués à toutes ces menaces, à toutes ces rodomontades. Ce qu'il y a, c'est que les choses sont en train de bouger terriblement. Il y a la débandade autour de Kadhafi. Et cette débandade est renforcée par la défection d'Abdeselham Jalloud, son ancien numéro 2, au moment de la révolution, et c'est important parce que le départ de Jalloud et l'appel qu'il a lancé aux brigades de Kadhafi de se rendre ou de se joindre aux rebelles est très important dans la mesure où non seulement il a un grand crédit, il avait démissionné pour protester contre l'autoritarisme de Kadhafi, mais aussi du fait que Jalloud est très populaire dans sa tribu des Mgarha, et c'est un signal pour la tribu des Mgarha pour qu'elle soutienne massivement, plus massivement, les rebelles. Et cela aussi est un signal fort aux officiers de l'armée pour que eux aussi, ils se rendent et ils rejoignent les rebelles.
Les rebelles, oui. Antoine Basbous, mais en même temps, en creux, on pourrait juger qu'au contraire, c'est incroyable comme il a résisté, Kadhafi. Comment est-ce qu'il a fait pour tenir aussi longtemps? Puis il est toujours manifestement encore à Tripoli, au pouvoir, entre guillemets. Comment il fait? Parce qu'on peut bien payer des hommes, mais au bout d'un moment, ça devrait s'effondrer d'un seul coup.
Kadhafi a fondé son régime sur les comités révolutionnaires et sur les tribus qui lui étaient redevables, qu'il a payé et très chèrement. Actuellement, je sais qu'il cherche désespérément à contacter les autorités en Europe et aux États-Unis pour trouver un point de chute, pour négocier. Mais c'est un homme qui, au bout de 6 mois, avec la rébellion qui s'est soulevée, avec l'OTAN qui bombarde, même sans envoyer de soldats au sol, eh bien, c'est la fin qui est annoncée.
Zaïna Moussa, quelle fin? Je disais, les risques de lynchage. On a vu beaucoup de dictateurs, hein. On peut penser à Saddam Hussein, ou un Gbagbo, toute proportion gardée en Côte d'Ivoire. C'est des fins assez difficiles souvent. Là, pour Kadhafi, qu'est-ce que vous attendez? Un procès? Une fuite?
Ah non, moi j'attends pas la fuite, bien évidemment. J'attends un procès qui se déroulera en Libye. C'est ce que je souhaite et ce que souhaite la majorité des Libyens. Maintenant, s'ils venaient à fuir, ça serait aussi une très bonne chose. Parce qu'il faut que cette situation vienne à terme.
Pour conclure, Abdelaziz Barroui, alors effectivement, on va tirer de plan sur la comète, mais manifestement, la bataille de Tripoli a commencé, les taux se resserrent autour de Kadhafi. À l'avenir, la Libye, ce sera quoi? Comme l'a accusé Kadhafi, ce sera pour les Français, ils auront droit au pétrole de Libyen. Quel État va se mettre en place là? Est-ce qu'on peut déjà en tirer plus ou moins le portrait?
Ce qu'il y a, c'est qu'on a déjà une bonne chose, ce qui ne s'est pas passé en Égypte et en Tunisie. Il faut quand même considérer que le Conseil national de transition fonctionne depuis plusieurs mois, que des experts se sont penchés là-dessus, mais évidemment, on a vu qu'en Tunisie et en Égypte, c'est difficile. Depuis plusieurs mois, les Tunisiens, les Égyptiens n'arrivent pas à s'y retrouver. Mais par contre, les Libyens, c'est difficile d'un côté parce que ce sont des régions qui sont, il y a moins de, on n'est pas sûr comment ça va fonctionner parce que Kadhafi, son système était total et que par conséquent, il ne laisse plus rien. Mais en même temps aussi, on s'y prépare et probablement la Libye connaîtra encore quelques mois difficiles après le départ de Kadhafi, comme c'est le cas pour la Tunisie et l'Égypte. Mais je demeure, malgré tout, je demeure optimiste.
Vous demeurez
que les Libyens s'en sortiront.
Merci beaucoup Abdelaziz Barroui en direct de Tunis. Antoine Basbous avec nous également et puis Zaïna Moussa. Je vous souhaite une excellente soirée.
Bonsoir.
Merci.
Forum, Philippe Reva, Laurent Caspary.
La nuit a été chaude à Bienne, mais pas seulement à cause de la canicule. La nuit dernière, dans plusieurs quartiers différents, les pompiers et les habitants, parfois munis d'extincteurs et de seaux, ont combattu des incendies de voitures. En tout, 18 véhicules ont été incendiés volontairement en 90 minutes. Ce n'est pas la première fois que Bienne est confrontée à des incendies volontaires. Alors, y a-t-il un lien entre ces différents événements? Et surtout, qui est responsable? Nous avons joint tout à l'heure Eric Fer, le maire de Bienne. Nous lui avons tout d'abord demandé s'il avait des informations supplémentaires à propos des événements de la nuit dernière.
Non, pas du tout. De toute façon, avec la cantonalisation de la police cantonale, toute la poursuite de ces événements de la nuit dernière est en les mains des instances cantonales. Mais nos responsables de la sécurité se sont encore renseignés tout récemment et pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle à compléter.
Alors Eric Fer, selon les dépêches, la population de plusieurs quartiers est descendue dans les rues pour aider les pompiers avec des seaux, avec des extincteurs. Ça paraît comme ça surréaliste. Comment vous expliquez ces faits?
Ben, je suis très reconnaissant à ces citoyennes et citoyens qui ont pris leurs responsabilités, qu'il faut prendre dans des cas extrêmes. Et cette situation était extrême dans la mesure où les pompiers auraient dû être à plus d'une dizaine de places en même temps, ce qui est pour tout corps de pompiers strictement impossible.
Vous avez une hypothèse qui pourrait incendier comme ça tout d'un coup presque une vingtaine de voitures en quelques 90 minutes?
Non, pas du tout. Vraiment, là, on doit faire confiance aux investigateurs de la police cantonale de trouver les coupables, parce qu'il est très, très important de pouvoir les rendre responsables de ce qu'ils ont fait, et surtout éviter une répétition d'un tel incroyable événement. Mais je voudrais pas du tout spéculer qui sont ces gens et pour quelles raisons ont-ils fait ça, mais tout simplement... ça rend quand même soucieux que des gens probablement du milieu de notre société sont capables à faire de tels dégâts en si peu de temps.
Ouais, alors dans la ville de Berlin, hein, alors comparaison n'est peut-être pas raison, mais certains quartiers de la ville actuellement en connaissent aussi des incendies de voitures. On parle de, dans ce cas-là, de casseurs d'extrême gauche qui brûlent des voitures de luxe. Est-ce que là, ça pourrait être une piste?
Écoutez, comme j'ai dit, je ne veux pas spéculer, mais je ne pense pas, parce qu'on n'a aucun indice pour le moment que ces événements ont un lien avec un événement politique. Des tout derniers temps, on n'a non plus pas eu d'intervention de police importante ces derniers temps, donc nous ne pensons pas qu'il y a un lien entre un événement ou la politique communale et ces incidents.
Éric Fer, j'imagine que les Biennois qui sont propriétaires de voitures vont sans doute passer les prochaines nuits, des nuits plutôt inquiètes. Est-ce que vous pouvez les rassurer?
Ben écoutez, je pense que la police cantonale va faire tout ce qu'elle peut de son côté pour être présent en ville de Vienne. Deuxièmement, du côté de la ville, on prendra certainement aussi des mesures, mais vous comprenez certainement aussi que je ne vais pas vous dire lesquelles. Et troisièmement, bon, moi, je pensais aussi à tous les propriétaires de voitures qui possèdent de garages ou qui ont une place dans un parking souterrain, qu'ils mettent leur voiture là, même si c'est parfois plus confortable de les laisser à la surface.
Mais quelque chose a bien été entrepris pour ceux qui n'ont pas de garage, hein, ils sont quand même nombreux. Les gens peuvent, a priori, dormir tranquille, la sécurité a été renforcée.
Ben écoutez, comme je vous ai dit, je ne vous parlerai pas des mesures que la ville de Vienne a prises ou va encore prendre. Et pour ce qui sont les mesures de la police cantonale, c'est eux les seuls compétents à vous renseigner.
Éric Fer, c'est pas la première fois, hein, que Vienne est confrontée à une série d'incendies volontaires. On sait qu'entre novembre 2010 et février 2011, il y a eu un quartier qui avait déjà été touché. À votre avis personnel, est-ce qu'il peut y avoir un lien?
Mon avis personnel ne joue aucun rôle dans ce cas-là. On ne sait pas s'il s'agit d'un pyromane, s'il s'agit de jeunes casseurs, par exemple. On ne sait pas rien du tout et il faut simplement laisser faire la police cantonale son travail et attendre les résultats qu'ils nous apporteront.
Éric Fer, maire socialiste de Bienne. La crise du Francfort a donné des munitions au président du PDC lors du congrès du parti hier à Ville. Il a critiqué la gauche qui hyperventile, mais aussi la droite qui avant tout ne veut rien faire, entre guillemets. Le PDC est devenu récemment le moteur de la sortie du nucléaire grâce à sa conseillère fédérale Doris Leuthard. Sur l'armée aussi, les velléités de certains membres du parti de doper le budget ont été dénoncées hier par Doris Leuthard. Autant de thèmes récents où le PDC se démarque du bloc de droite. Christelle Lemajon.
Oui, clairement sur un sujet comme le nucléaire, alors que les libéraux radicaux et l'UDC n'ont pas encore abdiqué, mais aussi sur le Francfort. Le scepticisme affiché hier par de nombreux membres du parti à propos de l'affectation des 2 milliards de francs que le Conseil fédéral veut injecter dans l'économie, cela revient en fait à marquer sa distance avec le Parti libéral radical et le PBD, les partis des deux ministres qui portent ce dossier. Or, ce sont aussi des concurrents pour les prochaines élections fédérales et on est à 2 mois de l'échéance. Le PDC a donc choisi de marquer sa différence avec le bloc de droite, de revendiquer le centre. D'ailleurs, hier à Ville, Christophe Darbelay a mis en avant le dernier sondage SSR-GFS, non seulement parce qu'il donne le PDC en hausse, mais aussi parce qu'il place le parti pile au milieu de l'échiquier politique suisse. Un centre un peu encombré tout de même, puisque deux petites formations y chassent aussi des voix, les Verts libéraux et le Parti bourgeois démocratique.
Alors on l'a bien compris, hein, positionnement centriste en vue des fédérales, mais est-ce que ça convient à tout le monde dans le parti ?
Alors, pas forcément, il y a un certain nombre d'élus qu'on sait franchement à droite et qui voient, par exemple, d'un mauvais œil la sortie du nucléaire. Ils ont été bien tenus au national, mais ce sera sans doute moins évident aux États. Ils sont aussi favorables à des crédits supplémentaires pour l'armée et certains, comme le Schweizois Bruno Frick, sont même les moteurs de ces demandes. En même temps, c'est sur ce type de positionnement conservateur qu'ils sont élus dans leur canton. Mais la tendance urbaine du PDC prend le dessus actuellement à la tête du parti et les PDC des champs se voient remettre à l'ordre et même publiquement, comme hier à Ville. La mise au point de Doris Leuthard sur l'armée est un signal très fort, c'est rare de la part d'un conseiller fédéral. Doris Leuthard est respectée dans le parti. On verra si ça suffit pour faire parler tout le monde d'une même voix.
En direct de notre studio du Palais fédéral, Christelle Domingeau, merci.
Et le président du PDC suisse est avec nous, Christophe Darbelay, bonsoir.
Bonsoir.
Fatih Derder également, bonsoir Fatih Derder.
Bonsoir.
Candidat libéral aux élections fédérales, vaudois. Christophe Darbelay, alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que vous accusez la gauche, vous accusez la droite, et sans vouloir s'avancer, hein, si on parle au nom des auditeurs fribourgeois ou valaisans, vous êtes plutôt à droite le PDC, non?
Écoutez, je crois que le positionnement centriste du PDC, il est avéré. Hein. Je crois qu'en Valais, il y a peut-être des courants un peu plus conservateurs, avec un parti qui a un positionnement un peu plus au centre-droit.
Jura, Schmitt, Souris, Appenzell.
Les politiques, si vous regardez, eh bien, le PDC est quasiment à équidistance entre la gauche, et à très bonne distance de la gauche d'ailleurs, et à équidistance de l'UDC. Je pense que c'est un bon positionnement. D'ailleurs, les Suisses votent le plus proche du PDC. Ça a été prouvé dans de nombreuses études. Alors, si on n'accepte pas des budgets supplémentaires pour l'armée, ça ne veut pas dire qu'on est à gauche. Je pense que c'est simplement le bon sens. Moi, j'ai dit hier que la priorité, c'était les infrastructures, c'était la formation et la classe moyenne. Et puis, je pense que si Fatih Derder doit choisir entre la troisième voie, entre Lausanne et Genève, terminer le réseau autoroutier et puis faire le projet SEVA, ou bien donner un milliard de plus à Oli Maurer, je pense qu'on sera rapidement d'accord.
Oui, c'est ce qu'on va vérifier. Mais Christophe Darbelay, vous admettez, parce que c'est quand même... les partis ont une histoire aussi. En 2011, on peut le dire solennellement sur nos ondes, parce que le président du Parti National, le PDC, n'est pas un parti de droite.
Le PDC est un parti du centre, il est l'original au centre de l'échiquier politique, et je crois que si sur de nombreuses questions en matière de sécurité, d'économie, de finances publiques, on peut se retrouver avec les partis de droite, on revendique notre solidarité sociale, cette responsabilité qu'on a, et puis aussi la question de l'environnement. C'est sur ces deux sujets-là qu'on a le plus de divergences avec l'UDC et le PLR. Maintenant, sur le PLR, c'est 85% de position commune, mais je constate simplement que le président du PLR ces derniers temps ne fait que d'attaquer Doris Leuthard, Urs Valère et d'autres.
C'est un méchant.
Pour marquer sa distance.
Et il est méchant avec vous.
Il souhaite s'approcher de la droite. Il dit, je suis à droite, je ne suis pas du centre. Moi, je fais simplement de reprendre sa déclaration. Je la respecte profondément.
Juste avant de passer la parole à un turiféraire du libéralisme, Fatih Derder, Christophe Darbelay, il y a le nucléaire. Hein. Vous voulez dépenser beaucoup d'argent aussi pour les familles. Alors, c'est peut-être à bon droit, hein, bien sûr. Mais enfin, ça vous rapproche toujours un peu plus, on peut dire, du centre, mais de la gauche aussi.
Écoutez, revenons sur cette question du nucléaire. Je crois qu'il n'y a plus personne en Suisse qui peut contester le fait que c'est grâce au PDC qu'on sort du nucléaire. Maintenant, il faudra évidemment, comme vous l'a dit tout à l'heure votre collègue, confirmer la chose au Conseil des États. Mais je pense qu'avec Doris Leuthard, on a fait une bonne politique. Il y a plus de 80% de la population suisse qui partage cette position. Le PLR, c'est pas franchement affranchi de la droite sur ces questions. Il s'est abstenu sur la question du nucléaire, donc on ne sait pas trop ce qu'il pense. Et puis, si vous regardez ce qui se passe dans d'autres pays, par exemple en Allemagne, avec les très conservateurs de la CSU en Bavière ou avec la CDU d'Angela Merkel, eux aussi sont les moteurs de la sortie du nucléaire. Je pense que c'est une position de bon sens pour les prochaines générations et que c'est la meilleure solution pour la Suisse.
Fatih Derder, vous qui êtes libéral, de droite, vous dites de droite, j'imagine, oui?
Oui, oui.
Droite,
oui.
Le centre, pas votre tasse de thé?
Non, du centre-droite, on va dire, de manière plus générale.
Comment vous observez ce qui se passe au PDC, qui se dit de centre, qui veut plus dire de droite aujourd'hui?
C'est très honnêtement, moi les passes d'armes et les querelles entre les présidents de parti, Christophe Darbelay et Fulvio Pelli, m'intéressent relativement peu. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici dans votre studio, c'est peut-être dû à ma nouveauté en politique, mais les querelles politico-politiciennes pour gagner 3 sièges et demi ne m'intéressent pas beaucoup. Et c'est pas pour ça que je suis rentré en politique.
Sur parole.
C'est pas pour ça que je suis rentré en politique, c'est pour défendre des valeurs, et les valeurs que j'ai identifiées sont celles du PLR. Tant mieux si à 85%, voire 90% d'accord avec le PDC, parce que je pense qu'on a le même projet de société, d'une société libérale responsable, voire sociale par certains aspects, et je pense que c'est ça qui fait aujourd'hui la force de la Suisse, et donc j'adhère à une bonne partie du programme du PDC, et je pense que ces calculs électoraux m'intéressent peu. Ce que je constate aujourd'hui, et ce que vous voyez comme moi, c'est qu'on a aujourd'hui deux gros dangers qui menacent la Suisse, et je pense que c'est de ça qu'il faut parler aujourd'hui. Le premier qui est le vrai danger essentiel dont on doit parler avec Christophe Darbelay, avec tous les partis responsables, c'est la crise mondiale qui s'annonce, la crise de la dette qui touche, on le sait, la France, qui touche maintenant, on l'a appris la semaine dernière, l'Allemagne, et qui va toucher la Suisse. Ce n'est pas qu'une affaire de Francfort, c'est une affaire de ralentissement économique dans son ensemble.
Alors justement, là, Christophe Darbelay dit la droite, c'est-à-dire les libéraux et l'UDC ne font rien. Qu'est-ce que vous lui répondez, vous?
C'est le premier élément. Juste permettez-moi de finir mon raisonnement. La dette mondiale est le premier danger. Le deuxième danger que je vois, c'est la campagne électorale actuellement en cours.
C'est un danger.
Qui est un danger parce que ça va pourrir totalement le débat qui est un débat responsable qu'on doit avoir parce qu'on est en train de parler de choses très sérieuses. On est en train de parler des emplois des Suisses qui seront menacés en 2012. Dès cet automne, il y aura des licenciements. Il y en a déjà qui ont commencé. Ça va se poursuivre en 2012. Le pouvoir d'achat des Suisses. On est en train de parler de choses très, très importantes qui nous concernent et qui concernent tous nos auditeurs. Et à partir de là, on a un devoir de responsabilité, nous, comme parti, de pas, parce qu'on est en campagne, balancer tant qu'on peut n'importe quel slogan dans tous les sens. Et là, je rejoins totalement Christophe Darbelay pour dire qu'il y a une espèce d'hyperventilation à gauche, qui est à peu près irresponsable à mon sens, parce qu'elle mènera à rien d'autre que la faillite qu'on a pu éviter, grâce aux mesures PLR. Si on avait écouté la gauche en 2001, qui ne voulait pas du frein à l'endettement, on avait écouté la gauche en 2008, qui voulait des investissements massifs, et là, j'adresse cette remarque à Christophe Darbelay, c'est important de pas être trop hyperventilant non plus du côté du PDC. Oui, parce que souvenez-vous, en 2008, la conseillère fédérale PDC Doris Leuthard était attaquée de tous bords parce qu'elle n'intervenait pas assez. Et c'est la même chose qu'on dit aujourd'hui à Johann Schneider-Hamann. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Grâce à vous, je le dis, voilà, grâce au PDC, mais grâce aux valeurs libérales, grâce aux valeurs libérales qui ont fait le frein à l'endettement et la réaction de la Suisse en 2008, nous sommes aujourd'hui solides, nous avons traversé la crise de manière solide. Si on veut continuer à traverser la crise qui s'annonce en 2012, nous devons être unis, PDC, PLR, communes et pas se verser des querelles de bas étage. C'est tout ce que je dis.
Oui, effectivement, vous dites beaucoup de choses, mais vous ne répondez pas, Fatih Derder. Parce que maintenant, je vais vous reposer la question, c'est-à-dire ce que vous a dit par médias interposés hier Christophe Darbelay. Alors certes, vous l'avez reconnu, la gauche qui hyperventilerait, alors ça, on vous laisse la responsabilité de vos propos à tous les deux, mais la droite qui ne fait pas assez, qui ne fait rien. Les démocrates chrétiens veulent distribuer pas mal d'argent hein, pour surmonter ce qui se passe avec le Francfort, vous pas?
Non, je vous ai répondu, mais vous m'avez pas entendu visiblement.
J'ai dit
que le PDC ne devait pas faire les erreurs qu'a fait la gauche à l'époque en 2008 à l'égard de leur conseillère fédérale. C'est pas parce qu'on est en campagne qu'il faut dire n'importe quoi. Il faut observer et voir quelles sont les données qui vont permettre à la Suisse de résister de manière solide et forte aujourd'hui pour que le pouvoir d'achat des gens qui nous écoutent et qui vont voter ne soit pas touché, pour que les emplois ne soient pas touchés. On doit pas céder à la démagogie et à tout prix se profiler en disant le conseil fédéral c'est une bande de nuls, les 2 milliards ne servent à rien, les mesures sont pas bonnes. Non, attendez, regardons exactement quels sont les éléments qui font la force de la Suisse et voyons quels sont comment on doit renforcer ces éléments qui font la force de la Suisse.
On va vérifier, Fatih Derder, si Christophe Darbelay a compris votre exhorte. Christophe Darbelay, qu'est-ce que vous répondez à Fatih Derder qui vous interpelle là, plus ou moins clairement?
Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Fatih Derder. D'ailleurs, j'ai rien dit d'autre hier. D'ailleurs, mon propos a été complètement soutenu par la conseillère fédérale. Moi, je peux quand même pas applaudir des deux mains le conseiller fédéral. Et d'ailleurs, le PLR a été aussi assez critique par la voix de son vice-président Rudi Noser et d'autres pour dire que ces 2 milliards, c'était beaucoup d'argent. Même Fulvio Pelli a reconnu que c'était beaucoup d'argent. Et puis, le conseil fédéral a proposé aucune mesure concrète au titre de ces 2 milliards. Par conséquent, permettez-moi d'être sceptique quand on nous promet 2 milliards de francs pour relancer l'économie, et là je partage l'avis de Fatih Derder, hein, il faut faire baisser les prix parce que c'est un vrai scandale que les consommateurs ne profitent pas des baisses qui sont liées à la chute de l'euro et du dollar. Il faut aider l'industrie d'exportation et en premier lieu le tourisme qui est très touché par cette crise de la dette. Eh bien, dans ces domaines-là, il faut prendre des mesures, mais des mesures concrètes. En 2008, vous l'avez dit, quand il y a eu une crise économique, c'était Doris Leuthard, ministre de l'économie à l'époque, elle était très attaquée par la droite dure qui voulait rien faire, je le répète, par la gauche qui hyperventilait, qui aurait voulu endetter les 4 ou 5 prochaines générations. Eh bien, il y avait un paquet avec Doris Leuthard, qui a été d'ailleurs, pour finir, aussi soutenu par le PLR. Je crois que le succès de la Suisse, c'est quand même d'avoir eu des finances saines, d'avoir un bon système de formation, des entreprises compétitives. Puis on ne travaille pas 35 heures, mais on travaille 42 heures en moyenne dans le pays. Mmh. Et ça,
vous avez
surmonté la crise. Vous regardez la France.
Là, vous êtes toujours d'accord.
Il y a 35 ans qu'ils ont déficit sur déficit. Il n'y a pas une seule année avec des chiffres noirs. Ça, c'est le résultat. Alors aujourd'hui, on est un peu puni parce qu'on a été peut-être un peu trop bon élève. Mais je pense qu'il y a maintenant des priorités à faire. Il faut garder le cap et puis prendre des mesures, mais des mesures concrètes. Pas de la poudre.
Ça, on verra en automne, Christophe Darbelay. Bon, pour conclure ce moment émouvant, Fatih Derder, peut-être.
Je voudrais quand même dire que je suis d'accord avec Christophe Darbelay. Voilà. Je crois que dans l'ensemble, on est assez d'accord sur l'ensemble.
Vous allez dire mais.
Non, mais il y a
pas. Alors, Fatih Derder, je vous demanderai.
Dire une chose.
Les 2 milliards. 2 milliards de francs pour aider le tourisme. Tout ça, vous êtes d'accord? Le congé paternité que propose le Parti démocrate chrétien, vous êtes d'accord aussi? 6 mois.
Mais sur l'intervention du Conseil fédéral, il faut admettre une chose. C'est une mesure qui est, j'allais dire entre guillemets, presque pour la galerie. Il fallait réagir. Les partis n'arrêtent pas de faire pression, on est en période de campagne. Il fallait un message, il fallait un chiffre clair. Et ça, on peut leur reprocher, on peut dire que c'est bien, qu'il fallait un geste symbolique. En attendant, ils ont eu ce geste symbolique. Et ce que je remarque, c'est que sur le pouvoir d'achat...
Symbolique à 2 milliards.
Ouais, mais sur le pouvoir d'achat, les mesures concrètes que moi je défends totalement et que défend également Philippe Nanthermo qui va intervenir d'ici quelques instants sur ce plateau, c'est qu'il faut renforcer la culture de la concurrence dans ce pays, casser les cartels verticaux et renforcer la Comco. Non, on s'éloigne pas.
Non, on est
au cœur du sujet.
On
est au cœur du sujet. Et juste, non, mais pour conclure sur le frein à l'endettement, un point essentiel qui est un des éléments qu'il faut que les finances sont saines aujourd'hui. Et là, avec Christophe Darbonnet, on est 100% d'accord. Par contre, à gauche, il y a un vrai problème. Reprenez les archives et je les ai reprises il y a quelques temps. Il y a quelques temps, le 18 juin 2001, à la tribune du Conseil national, Pierre-Yves Maillard nous disait que c'était un instrument diabolique. Cet instrument diabolique nous a permis de sauver les finances aujourd'hui de la Suisse. Et ce même parti va demander maintenant qu'on intervienne massivement. Et pendant la campagne, il y aura toute une série de mesures qui seront populistes et qu'il ne faut pas écouter. Voilà.
Merci beaucoup, Fatih Derder. Je vais passer la parole, mais quelques millisecondes à Christophe Darbelay. Je vais vous demander simplement, après avoir entendu ce plaidoyer pour une saine amitié PDC libérale radicale.
On en a besoin, la Suisse en a besoin.
Derder. Christophe Darbelay, hier, quand vous critiquiez la droite qui ne faisait rien, vous excluiez Fatih Derder, j'imagine, à l'avance.
Ouais, écoutez, je crois qu'entre le PDC et le PLR, moi j'ai toujours été celui qui a préconisé un travail en collaboration, peut-être même un rapprochement beaucoup plus important que...
Avec quelques pics de temps en temps.
Maintenant, quelques pics. Les pics, si vous regardez, depuis des mois, pratiquement depuis une année et demie, sont surtout venus de mon collègue.
C'est pas vous, c'est l'autre.
Il souhaite à tout prix... être de droite, s'éloigner du centre, bon, moi je respecte. Regardez ce qui se passe à Zurich, et ça c'est de nouveau pas la tasse de thé non plus de Fatih Derder, je crois. Cette discussion qui a lieu maintenant, où Blocher est soutenu par une partie du PLR zurichois, c'est quand même une dérive, et je pense que sur d'autres sujets, on doit continuer à être les deux parties qui tiennent la Suisse. Maintenant, tout ça fait peut-être un peu partie de la campagne électorale, mais j'espère que le Parti libéral radical reste plutôt un parti de centre-droit, qu'un parti proche de l'UDC.
J'en suis convaincu.
Une excellente soirée à tous les deux. Merci beaucoup.
Merci.
Et on va continuer à parler économie et Francfort avec la Migros et la COP qui commencent à ressentir les effets du tourisme d'achat des Suisses dans la zone euro. Herbert Molliger, le président de la direction générale de Migros, déclare dans la Sonntag Zeitung que certains magasins proches de la frontière affichent un recul des ventes de 6 à 8%. Dans ce contexte, certains postes de travail pourraient ne pas être repourvus. Et puis pour sa part, le patron de la COP, Hans Ueli Lösli, a déclaré dans la Basler Zeitung que les achats frontaliers pourraient coûter 200 millions de chiffres d'affaires à COP, 3 milliards pour l'ensemble du commerce de détail en Suisse. Alors, quelles conséquences ce tourisme d'achat a-t-il sur les paysans suisses, alors que précisément la COP, la Migros vendent beaucoup de leurs produits frais helvétiques? Eh bien, le tourisme d'achat va-t-il aussi leur faire perdre des plumes à eux? On va vous poser la question, Pierre-André Tombé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du syndicat Unitaire.
Je suis président, oui. Je ne suis pas en campagne.
D'accord.
Je suis déjà élu.
Très bien, on a pris note. Alors sur cette question, Pierre-André Tombé, les produits des paysans suisses sont vendus par la COP, la Migros, Manor. Aujourd'hui, les Suisses maintenant partent, traversent la frontière pour évidemment trouver des produits, et notamment des produits frais moins chers dans la zone euro. Ça, c'est un réflexe que vous comprenez ou alors que vous déplorez?
Non, j'aimerais rajouter deux choses. Ils sont pas vendus par la COP et la Migros, ils sont distribués par la COP et la Migros, parce que la COP ou la Migros existe ou n'existe pas, les gens vont continuer à manger 3 fois par jour en Suisse et dans le monde entier. Première chose. Deuxième chose, j'aimerais dire quand même qu'il faut penser que si les produits baissent à l'étranger, on a des collègues qui sont des travailleurs et des paysans, des caissières dans les magasins qui gagnent moins d'argent. Donc il faut aussi penser à ces gens-là. Et puis la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que les produits n'ont pas augmenté chez nous en Suisse. Il y a un facteur mécanique au niveau de l'argent qui fait que l'argent vaut plus qu'autre chose et qui fait que peut-être les deux messieurs qui ont parlé avant n'ont pas très bien fait leur travail, mais ça c'est leur job. Mais je pense qu'ils l'ont pas bien fait. La preuve, c'est que c'est pas terrible pour le monde entier et qu'on a peur d'avoir de perdre des places de travail. Mais nous, nos prix n'ont pas changé. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est qu'on est en quantité d'auto-approvisionnement au niveau des paysans suisses. On est qu'à 50 à 60%. Donc s'il y a 8% d'achat à l'étranger, nous, c'est une question d'organisation, mais ça nous pose pas un problème.
Donc pour l'instant, ça ne vous pose pas de problème. En même temps, on pourrait imaginer que COP et Migros, qui commencent à enregistrer des pertes, pourraient bientôt, je sais pas, faire pression sur vous, sur les paysans, sur les fournisseurs.
Ah ben non, ça, ils arrivent, s'ils arrivent à faire pression, ils y arrivent assez fortement ces derniers temps, hein, par médias interposés, mais s'ils y arrivent, c'est que peut-être M. Fatih Erdem aura du pain sur la planche, une question concurrence quand il sera élu, parce que s'il y a bien un endroit où il y a peu de concurrence, c'est à cet endroit-là, mais j'aimerais quand même rappeler que je fais partie d'une région où je vois tous les jours, comme des champignons pousser des magasins Aldi et Lidl, ça veut dire que les gens, enfin, les managers doivent quand même réfléchir un tout petit peu, puis se dire qu'il y a encore des possibilités de vendre à des Suisses, mais ce que j'aimerais enfin finir par dire, c'est que nous, les paysans, on est à disposition des consommateurs. Notre souci qu'on avait quand on voulait que les gens viennent acheter chez nous, c'était qu'ils ne se déplacent pas. On en avait peur que les consommateurs de ville ne partent pas de chez eux. Puis on se rend compte qu'ils partent de chez eux pour aller à l'étranger. Alors, n'allez pas aussi loin. Arrêtez-vous dans les fermes à côté de chez vous. Vous allez dépenser nettement moins. Vous allez faire un produit fini qui sera nettement mieux. Vous allez faire une bonne affaire. Vous allez voir ce que fait le producteur. Mais rappelez-vous qu'il faut des paysans parce que les places de travail qui se perdront sur les 4 ou 5 personnes qui travaillent dans les magasins sur les frontières, elles pourront peut-être se gagner en tant que travailleurs agricoles ou paysans qui peuvent se réinstaller ou qui n'arrêtent pas en Suisse.
Oui, Pierre-André Tombé, alors vous saisissez au vol les Suisses qui se déplacent, vous le voyez, qui se déplacent à l'étranger, alors vous dites venez chez nous puisque vous vous déplacez. Alors, en même temps, il faudrait peut-être aussi, est-ce que les paysans s'organisent pour peut-être vendre davantage leurs produits directement dans la ferme? Est-ce que ça peut se faire?
Ah ben moi je rentre de d'Autriche, je suis arrivé dans la nuit d'Autriche, on a eu un forum sur la souveraineté alimentaire, vous savez qu'on en parle beaucoup, et ce forum sur la souveraineté alimentaire n'a fait que de montrer l'explosion des circuits courts dans toute l'Europe. On s'est retrouvé entre paysans et entre consommateurs, ONG, pour savoir comment on allait organiser les plateformes qui nous permettent d'être en contact plus rapidement pour encore mieux travailler. Je pense qu'au temps d'Internet, ce sera encore plus facile. Vous savez que les paysans sont sur Internet, pas seulement pour savoir s'il y a une nouvelle marque de tracteur qui est sur le marché, mais aussi pour dire aux consommateurs, voilà ce que je produis, voilà comment je produis, viens, on est prêt, on t'accueille, c'est volontiers qu'on est à ta disposition. Et mon rêve, c'est que pour répondre à monsieur comme Barbelet, qui a d'ailleurs, qui est à la place où il est grâce aux paysans, mon rêve, c'est de pouvoir dire, il n'y a pas une Migros, une Coop, un Aldi, un Lidl, il y a autant de concurrents qu'il y a de paysans. Donc les paysans seront sur le marché de la vente de détail d'ici quelques années. Et on s'organise pour ça.
Et vous vous organisez pour ça. Très bien, bah, merci beaucoup Pierre-André Tombé d'avoir été avec nous quelques instants. Je rappelle, vous êtes le président du syndicat Unitaire.
Et je rappelle, pas en campagne.
Et pas en campagne, merci. Vous
êtes en campagne quand même géographiquement, disons-le.
Ah, mais alors, ouais. En campagne géographiquement, avec plaisir.
Exact. Bonne soirée à vous. Au revoir
et bonne soirée.
On a beaucoup parlé du prix unique du livre. Voilà, il y a quelques jours qu'en France, c'est plutôt le lieu unique du livre qui fait débat. Et ceci grâce à vous, Jean-Marc Roberts. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des éditions Stock en France. C'est un interview à Europe 1. Hein. Vous aviez dit vos craintes que la vente en ligne sur Internet détourne des lecteurs du livre. Depuis, vous enchaînez les interviews, les débats aussi. Ça a fait beaucoup parler, cette affaire. On va voir ce que vous en dites aujourd'hui en direct dans ce forum quelques jours après le début de cette affaire. Puis on a aussi dans notre studio celui qui est le meneur de la lutte contre le prix unique du livre en Suisse romande, Philippe Nantermeau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député suppléant libéral radical en Valais. Fer de lance de la lutte contre le prix unique du livre, je l'ai dit, vous avez aussi votre avis tranché sur les librairies et la distribution de livres. Jean-Marc Roberts, alors vous aviez dit, le lieu unique c'est la librairie, c'est pas la vente sur Internet. La vente sur Internet, c'est ce qui va détourner, peut appeler le vrai lecteur. Qu'est-ce que vous dites ce soir? Toujours un peu la même chose?
D'abord, oui, je pense que quand on défend une cause, il faut être radical, comme votre ami député. Mais sinon, c'est pas la peine. Hein. Bon, la première chose à dire, c'est que les Français, je ne sais pas du côté suisse, mais connaissent mal leur vocabulaire. Un lieu unique, c'est un lieu singulier, à nul autre pareil, qui ne ressemble à rien et qui est différent. Dans l'hypothèse lieu unique, je suis resté sur la formule « il est interdit d'interdire ». Moi, je ne veux rien interdire, je suis contre toute censure. Simplement, je crains terriblement et de plus en plus que par paresse, par commodité, par addiction aussi à leur écran, les citadins, parce que c'est à eux que j'en veux le plus. Quand on vit en zone rurale et que le premier libraire est à 150 km, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est bien content d'avoir les sites qui proposent des livres. Mais le libraire, la librairie indépendante en France, est en train, sinon de mourir, en tout cas de se sentir très mal, parce que le chiffre d'affaires que représentait la vente de certains gros best-sellers, ils en perdent une partie, parce que c'est ça qu'on vend sur les sites internet, hein. C'est pas de la poésie, c'est pas du Jacques Chessé que j'ai tant aimé, ce sont les bestes, quoi. Ce sont les polars, ce sont les gros succès, c'est les listes des meilleures ventes. Voilà, mon problème, il est là. Et puis,
c'est dangereux pour le livre lui-même, en somme, si je vous suis bien.
Ben, c'est dangereux pour le livre, pour les auteurs, pour les éditeurs. Comment fait-on pour financer ce que j'ai toujours fait grâce à mes patrons respectifs et grâce à mon actionnaire aujourd'hui qui me laisse travailler dans ce sens? Comment aurais-je fait pour imposer des gens comme Alex Akis, comme Brigitte Giraud, comme Philippe Claudel? Philippe Claudel est l'incarnation de l'auteur que les libraires ont inventé. C'est-à-dire, ils ont voulu que cet auteur qui a publié 400 livres dans un insuccès total ou presque devienne un auteur important et un gros vendeur de livres. Ce ne sont pas les grandes surfaces, ce n'est même pas la FNAC qui a eu pendant très longtemps ce côté agitateur d'idées, puisque c'était leur slogan. Aujourd'hui, ils sont plutôt...
Ils l'ont perdu aussi.
Alors, ils sont agités du résultat.
Jean-Marc Robert, je vois le jeune Philippe Tantermo qui vous écoute avec beaucoup d'attention, puis pas mal, il a l'air de secouer la tête plutôt. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui vient d'être dit, Philippe Tantermo?
Non, bon, je suis d'accord que la disparition de petites librairies en soi, c'est pas un phénomène très réjouissant, mais c'est une évolution sociale, une évolution des modes de consommation qui existe dans plein d'autres domaines. Vous prenez par exemple le disque, les disquaires ont disparu, quasiment. Et ce n'est pas pour autant que la musique a disparu. Au contraire, on a un accès à la musique comme on l'a jamais eu auparavant. Des groupes peuvent se mettre en avant grâce à Internet notamment, peuvent obtenir un nouveau public, et il y a des groupes, par exemple, vous prenez les Arctic Monkeys, qui est un groupe gigantesque, qui a joué cet été au Gourton Festival, qui s'est fait connaître par Internet.
Et pour les livres?
Et les livres, je vois pas pourquoi ils en seraient autrement. Contrairement à ce qu'a dit Monsieur Robert, sur Amazon, vous pouvez trouver énormément de livres, et des livres, et beaucoup plus loin que des best-sellers. Moi, j'ai trouvé, par exemple, je suis un fan de Duran Matt, j'ai trouvé sur Amazon des éditions des livres qui n'étaient plus édités, et qui me sont...
Jean-Marc Robert.
Oui, oui, il est très diffusé, mais en attendant, le livre en question dont je parlais était tout sauf un best-seller. Il avait été publié il y a une trentaine d'années, et c'est grâce à Amazon que je l'ai trouvé. Et vous pouvez trouver sur ces librairies internet énormément de petits auteurs. Vous avez des auteurs qui se mettent en avant par des blogs, par la presse. Les moyens de se faire connaître sont de plus en plus vastes. Et je ne vois pas ce qui permet de penser qu'aujourd'hui, parce que les petites librairies disparaissent, ou en tout cas sont de moins en moins nombreuses, eh bien on aurait un accès moins grand à la librairie. D'autant plus que sur Amazon, on a un choix beaucoup plus grand que celui que l'on peut avoir dans une petite comme dans une grande librairie.
Ouais, c'est la fameuse question du stock, Jean-Marc Robert.
Il n'empêche que l'étape suivante qui me terrifie, c'est la gratuité. Que personne ne le dit aussi ouvertement, ça existe pour le disque, tout le monde s'est piraté de la musique, maintenant c'est pour le cinéma, tout le monde a son petit effet streaming et voit les films le premier jour de leur sortie en salle, et même avant parfois ils peuvent voir le film sur leur ordinateur. Bientôt, très très bientôt, déjà Amélie Nothomb, paraît-il, on me l'a appris cette semaine, ses trois derniers livres sont gratuits, disponibles sur la toile. Moi, je trouve ça terrible, parce que comment vont vivre les auteurs?
Philippe
Nanterre, je parle même pas des éditeurs, hein, je parle des auteurs. Ils vont faire comment?
Eh bien, votre réaction, que je comprends, est celle qu'a eu le monde de la musique pendant très longtemps, et la réponse a été de dire on fait tout pour empêcher le téléchargement sur Internet. Et c'était une très mauvaise réaction, il fallait simplement vendre sur Internet. Et vous voyez, iTunes, par exemple, vend énormément de chansons sur Internet, où on peut vendre des livres, on peut vendre énormément de prestations, et j'ai lu plusieurs articles très intéressants qui montraient que le problème des gens, c'était pas de payer quelque chose, c'est d'avoir accès au contenu. Vous voulez regarder un film sur Internet, vous pouvez pas. Personne veut aujourd'hui vous louer votre film, on vous le loue seulement dans une version, si vous prenez sur le logiciel Mac, vous pouvez l'avoir que en version française. Vous n'avez pas les versions originales, vous avez un choix de films qui est très réduit, parce que les majors, ceux qui distribuent, veulent cloisonner les marchés, veulent éviter qu'on puisse avoir le même film en France ou en Suisse, où on veut profiter aussi de pouvoir vendre à des tarifs différents, et finalement on ne vend pas sur Internet. Alors les gens se retrouvent à télécharger. Alors, mais si vous vendez sur Internet, si vous proposez une bonne qualité de service, les gens sont prêts à la payer.
Jean-Marc Robert, s'il faut changer de métier, au fond il faut s'y mettre en quelque sorte.
Bah écoutez, moi j'ai 57 ans, ça fait 38 ans que je suis là-dedans, je vais pas non plus, un jour je vais partir jouer à la pétanque, hein. C'est vrai que, vous savez, le plus important, c'est que certains libraires et certains éditeurs, dont je pense faire partie, dont je me réclame, ne peuvent pas changer leur façon de travailler. Moi, j'ai choisi ce métier aussi pour vaincre une solitude et pour apporter aux auteurs qui me font confiance de jamais ressentir la détresse, ils la ressentent forcément, mais leur éviter des humiliations. Et c'est ainsi que, grâce à des libraires, j'ai fait en sorte, on a réussi ensemble à imposer des voix, des talents qui étaient au départ quasi condamnés. Donc effectivement, je pense que, de toute façon, on a perdu, il faut pas se raconter d'histoire, je suis pas con, on a perdu, c'est foutu, c'est fini. Alors l'étape suivante, oui, ben, elle se fera certainement sans moi. C'est pas, j'ai beaucoup d'enfants, mes enfants les plus jeunes, eh bien ils iront peut-être bientôt à l'école avec un cartable qui sera un ordinateur.
Non, voilà. Merci beaucoup Jean-Marc Roberts, d'être venu presque donner cet épitaphe à la profession d'éditeur en tous les cas. Vous êtes directeur de Stock, je rappelle votre livre aussi, François-Marie, ça c'est aux éditions Gallimard, et puis Philippe Nantermo était avec nous, anti-lieu unique, mais aussi anti-prix unique du livre. Je vous souhaite une excellente soirée, messieurs.
Merci,
je
bonne soirée.
Je vous salue tous les deux aussi. Bonne soirée.
Au revoir. 18h49 sur la première, c'est l'heure du journal des sports avec vous, Romain Rosing. Et puis en football, le derby romand entre Lausanne et Sion est en train de toucher à sa fin.
Oui, les deux équipes s'affrontent depuis 17h15 au stade de la Pontaise dans le cadre de la 6e journée de Super League. Il y avait 0-0 à la mi-temps. Hervé Borsier, vous êtes sur place. L'une des deux équipes a-t-elle pris l'avantage ?
Non, c'est toujours 0-0 ici et on est en retard et vous comprendrez pourquoi après. D'abord parce qu'il fait chaud et que les joueurs ont eu soif, et puis parce que le Lausanne Sport a perdu deux joueurs en début de partie, on y reviendra. Sur le plan du match en lui-même, eh bien dans cette deuxième mi-temps, c'est surtout le FC Sion qui domine le Lausanne Sport, qui procède par contre-attaque. Deux opportunités pour les Valaisans à la 70e minute, Mbondi tire sur Favre, et puis Sérédier aussi déclenche un tir, c'était il y a quelques seconde, également repris par Anthony Favre. Domination des Valaisans donc, mais domination stérile. Les Valaisans qui ont eu d'ailleurs la meilleure occasion lors de la première mi-temps. Un tir qui est venu depuis l'arrière d'un bord. Il y a eu un centre et puis un tir de Giovanni Sillo, et le gardien Anthony Favre était mal sorti, et fort heureusement c'est Jérôme Sonnera, fort heureusement pour le Lausanne Sport, qui a repoussé sur sa ligne de fond. Mais on va vous parler de ce qui s'est passé en début de match, parce que c'est important. Il y a eu un choc très violent entre Fabio Coltorti, Guillaume Katz et un joueur de Sion, c'était Vilmos Vanchak. Et finalement, Fabio Coltorti est à l'hôpital, il a une commotion cérébrale, il a des problèmes au cervical, il était blessé à la tête, et puis Guillaume Katz a eu le cuir chevelu ouvert profondément. Ces deux joueurs ont été remplacés par Anthony Favre et Alexandre Pagliari. On vous signalera aussi que Obradovic, touché dans un duel à 23e minute, a été absent pendant 3 minutes de la pelouse. Il est touché à la tempe, mais il tient toujours sa place. Et puis, bien entendu, la chaleur dans cette partie, car elle est très, très importante. L'arbitre a fait une pause tout à l'heure pour que les joueurs puissent boire. Mais on voit un match qui manque, il est vrai, un peu d'allant, avec un Lausanne Sport qui, lui, procède en contre-attaque avec un seul attaquant ce soir, c'est Matt Moussilou. Le Lausanne Sport, lui, eh bien, a joué d'emblée avec 5 remplaçants par rapport à l'équipe qui avait débuté face au Celtic Glasgow. Mais Mbondi, Faitouno et Sérédier sont rentrés en deuxième mi-temps. Mais pour l'instant, le FC Sion donc mériterait de mener à la marque. Mais il y a toujours 0-0 ici au stade de la Pontaise, alors qu'il reste encore 17 minutes à jouer dans cette partie.
Hervé, merci, on vous retrouve en fin de journal pour faire le point sur cette partie. Dans l'autre match de l'après-midi, Thun a réalisé un nouvel exploit en allant s'imposer à Berne 3-1 face à Young Boys.
Et puis après 784 minutes de disette, Neuchâtel-Xamax a enfin trouvé le chemin des filets.
Et oui, il aura fallu attendre la 6e journée de Super League pour voir les hommes de Joaquin Caparrós marquer et surtout gagner. Opposés à Zurich hier au Letzigrund, les Neuchâtelois se sont imposés 2-0 grâce à des réussites de Max Velozo et de Sébastien Wüthrich en toute fin de match. Une délivrance et surtout un nouveau départ pour l'ensemble de l'équipe. Confirmation avec Sébastien Wüthrich.
C'est clair, ça fait du bien. Maintenant, je pense qu'on est lancé dans la saison. On savait qu'on avait, la poisse et puis qu'on n'avait pas réussi à marquer un but depuis le début de la saison. Maintenant, je pense qu'on est bien défensivement. On l'a vu sur les 3 derniers matchs qu'on n'a pas pris de but. Et en plus, maintenant, on a réussi à marquer 2 buts. J'y suis dans l'un des deux, comme vous le dites. Donc, c'est clair, ça fait super plaisir et j'espère que ça va continuer comme ça.
C'était difficile à vivre cette période ?
Oui, c'est difficile, c'est clair. Quand on n'a pas la confiance, quand vous savez ce qui se passe dans le club, on a pas mal de pression. Maintenant, j'espère que ça va mieux aller. Et puis maintenant, l'équipe elle est en place. On ne peut pas faire de transfert. Donc, de toute façon, ça sera cette équipe jusqu'à la fin de la saison. Donc, je pense que maintenant, on peut travailler en toute sérénité.
Comment se font les contacts avec l'entraîneur qui est espagnol ?
C'est vrai que c'est assez difficile parce que, bon, il y en a beaucoup plus maintenant qui parlent espagnol dans l'équipe. Mais c'est vrai qu'il ne parle que espagnol. Donc, il y a souvent un joueur qui traduit ou sinon, il y a le chef directeur qui fait aussi la traduction des fois. Mais on arrive à se comprendre. Le langage du foot, il n'est pas compliqué.
Des propos recueillis par Hervé Borsier.
Dernier club romand en lice, Servette a concédé hier sa deuxième défaite de la saison au stade de Genève.
Les hommes de João Alves se sont inclinés 4-3 face à Grasshopper. Après 6 journées, un constat s'impose. L'équipe servettienne semble plus performante en déplacement qu'à la maison. Les Genevois disputeront d'ailleurs leur prochain match dimanche à Tourbillon face à Sion. Contrairement aux autres clubs, Servette n'a pas encore décidé s'il jouerait cette partie sous protêt. Je vous rappelle que le tribunal arbitral du sport doit encore rendre son verdict concernant les nouveaux transferts du club sédunois. Écoutez à ce propos Robert Hensler, le vice-président du Servette FC.
Non, il n'y a pas de décision qui a été prise à ce propos. Cela dit, pour nous, on considère que lorsqu'une équipe a engagé des joueurs, qu'il y a respect des conditions légales, ces joueurs doivent pouvoir jouer rapidement.
Ça veut dire qu'en principe, Servette ne jouera pas sous protêt ?
Non. Ça ne veut surtout pas dire cela. Ça veut dire simplement que cette affaire peut arriver aussi aux Servette. Ça peut arriver à d'autres équipes. Donc, je pense que ce qui est important, c'est que les autorités qui doivent se prononcer dans ce domaine-là le fassent très rapidement.
Dans le contexte actuel, c'est quand même particulier d'affronter le FC Sion qui a des ambitions, qui fait parler de lui par des affaires juridiques. Vous y pensez ?
Non, je pense que les joueurs vont être très concentrés sur ce match. Le FC Sion, c'est une super équipe, il y a respect, mais le Servette s'est montré aussi sa force, donc Servette a toutes ses chances.
Et sachez que le président du FC Sion, Christian Constantin, sera l'invité de la matinale demain à partir de 7h35. Toujours en Super League, Lucerne a battu hier Bâle 3-1. Les Lucernois restent ainsi deuxième du classement à 2 points du surprenant leader Thun. Côté roman, Servette est 5e, Examax 9e. Sion et Lausanne qui s'affrontent donc en ce moment pointent respectivement 4e et 10e rang. En Challenge League, Delémont s'est incliné cet après-midi 3-1 à Lugano. Vaduz s'est battu Kriens 3-0, alors que Ville et Saint-Gall ont fait match nul 2-2. Hier, Stade Nyonnais s'est imposé 2-0 à Bienne et Étoile Carouge s'est incliné 3-0 à Locarno. Au classement, Saint-Gall mène le bal avec 13 points. Bienne, Stade Nyonnais et Étoile Carouge comptabilisent 7 points et Delémont 6.
En hippisme, le 14e jumping de Verbier s'est achevé cet après-midi par un triomphe helvétique.
L'élite suisse et quelques cavaliers étrangers ont pris part au clou de la manifestation, le Grand Prix. Alban Poudret, vous êtes avec nous, vous avez suivi cette compétition qui s'est donc terminée sur un doublé suisse.
Oui Romain, effectivement, doublé suisse, même doublé lucernois, puisque Paul Estermann a battu Pius Schwitzer, Paul Estermann avec une jument d'avenir, Eclipse, Pius Schwitzer avec sa phénoménale Carlina, une des meilleures juments du monde, deuxième du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, deuxième de la finale de la Coupe du Monde à Genève, et deuxième ici à Verbier, ça fait chic quand même pour la carte de visite du concours de Verbier, le Belge Grégory Watley troisième, l'Allemand Jörn Eschprey ensuite, Steve Gerda sixième avec Sydney, jeune jument pleine d'avenir là aussi. Steve Gerda avait le meilleur chrono au barrage, mais une petite faute, dommage, mais enfin, il a déjà remporté un Grand Prix il y a 10 jours avec cette jument, c'est vraiment l'avenir là encore. Donc, très belle journée, du grand sport, pas de wildcard pour le CSI Coupe du Monde au meilleur roman, parce que Christian Tardy n'était juste pas dans le top 5, dommage, mais en tout cas, du très grand sport et un Paul Estermann impérial qui avait déjà gagné en levée de rideau devant Deborah Lazzarotto et Aurore Rösti la vaudoise. Donc, un bon mélange là entre des vedettes internationales, il y avait une douzaine de cavaliers étrangers et de locaux.
Et comme promis, on va faire un nouveau détour du côté du stade de la Pontaise où Lausanne reçoit le FC Sion dans le cadre de la 6e journée de Super League. On parle évidemment de football. Hervé Borsier, on s'était quitté sur le score de 0-0. Est-ce que celui-ci a évolué ?
Et non, toujours 0-0, toujours pas d'ouverture à la marque et toujours le même scénario avec un FC Sion qui domine son sujet, qui se porte souvent à l'attaque mais qui n'arrive pas à concrétiser. Et puis un FC Lausanne Sport qui se contentera sans doute de ce match nul après ses deux défaites assez larges et qui lui procède par contre-attaque. Il reste 11 minutes à jouer dans cette partie.
Hervé Borsier, on vous retrouve dans le journal horaire de 19h.
En cyclisme, l'Australien Christopher Sutton a remporté cet après-midi au sprint la deuxième étape du Tour d'Espagne.
L'Italien Daniele Benatti s'est lui emparé de la tunique rouge de leader portée par son coéquipier Jakob Fuglsang. Pour sa part, le Norvégien Edvald Boasenhagen a remporté la 16e édition de la Cyclassique, épreuve Pro Tour disputée à Hambourg. En triathlon, l'équipe de Suisse a décroché aujourd'hui à Lausanne la médaille d'argent lors de la 3e édition du championnat du monde de relais mixte. Double tenant du titre, les Suisses ont été battus par la Grande-Bretagne. L'Allemagne complète le podium. Puis en athlétisme, Mujinga Kambunji n'ira pas au Mondial de Daegu qui débute le 27 août. La sprinteuse souffre toujours d'une élongation à la cuisse gauche. En Corée du Sud, elle devait faire partie du relais suisse 4x100 mètres.
Romain Rosang, merci.
Et Carole Duby, la météo.
Météo Suisse a lancé aujourd'hui un avis d'alerte à la canicule pour toutes les régions de plaine du pays. Cette alerte prendra fin en milieu de semaine prochaine. Demain, c'est une nouvelle journée caniculaire qui se lèvera. Les minima seront très chauds pour la saison avec 16 à 20 degrés en plaine. Au fil des heures, le mercure proposera un maximum de 32 à 34 degrés. L'isotherme du zéro, quant à lui, s'installera à 4500 mètres. En montagne, demain, on retrouvera un vent faible, mais son secteur sera variable. Mardi, le temps sera bien ensoleillé. On vivra une journée tropicale à cause de la tendance orageuse qui sera de plus en plus forte. En deuxième partie de journée, des orages locaux éclateront, surtout en montagne. Le mercure affichera un maximum de 30 à 34 degrés en plaine. Mercredi, la journée sera assez ensoleillée et lourde. Dans l'après-midi, des orages reviendront à la charge en montagne. Ils pourraient cette fois-ci s'étendre aux régions de plaine.
La météo avec le BPA et la campagne de prévention. Attention, enfants sur le chemin de l'école.
Infotrafic RSR
avec Café Kiko Doro et son système à capsule.
Suite à une surcharge de trafic sur l'autoroute Martigny-Vevey, la circulation subit de forts ralentissements entre Aigle et le tunnel de Glion en direction de Vevey. Et c'est la fin de cette édition de Forum. Jean-Bernard Pfulg et Eric Jutzet à la technique. Demain, l'invité du journal, Christian Constantin, dès 7h35. Il est 19h sur la première. Excellente soirée.